liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 46, année 2015. Salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, parle-nous du sommaire.
Un bien beau sommaire, voyons. On va vous parler d'espionnage, d'empowerment, le logiciel libre et le gouvernement, le patron de Microsoft en vadrouille en France, bien accueilli par le gouvernement d'ailleurs, les biens communs, la BD numérique et l'open source, et puis Adopi, qu'on aime détester.
ZDNet France, aucun logiciel n'est à l'abri de l'espionnage. Dixit, un espion. Un article de la rédaction.
Dixit, un ex-espion, et oui, parce qu'il faut croire que sinon il aurait peut-être pas pu parler.
Oui, probablement. D'ailleurs, en théorie, il devrait pas pouvoir parler non plus, mais voilà, c'est un ex-espion américain. C'est un ex-espion américain. C'est difficile de pas dire un ex-espion, ce qui ne veut rien dire.
Mais c'est voilà. Compliqué. Un de la NSA.
Et qui s'appelle William Binet.
Donc, a priori, le gars, il sait de quoi il parle, et il vient nous présenter le fait que la NSA, avec 10 milliards de dollars par an qu'ils ont comme budget, en gros, ils peuvent craquer un petit peu tout ce qui leur passe sous la main. Malgré tout ce qu'on peut essayer de faire pour se protéger, et donc il y a plein d'outils, hein, surtout du logiciel libre, ça fait partie de ces quelques manières qu'on a d'essayer de garder un peu de vie privée, et bien la NSA, ils sont trop forts, et on peut pas faire grand-chose finalement.
Voilà, c'est ce qu'ils prétendent en tout cas. Alors bon, moi je tente de voir, parce que eux disent que c'est un ex-espion, en même temps c'est vachement difficile de vérifier quoi que ce soit, et voilà, bon, il y a des affabulateurs, on sait pas trop, peut-être que le mec sort ça pour essayer de décourager tout le monde en disant c'est pas la peine.
Ça marche peut-être pas mal.
Voilà,
hein.
C'est peut-être un plan comme des espions américains, on sait pas.
On sait qu'ils en ont raté au moins un, et de manière assez forte. Hein. Snowden, qui est parti en Russie, leur est passé à travers les mains, et ils font la tête aujourd'hui.
Et ils utilisaient du logiciel libre pour
et
ça.
Et ils l'utilisaient, mais que du logiciel libre, des bons logiciels qu'ils recommandent aujourd'hui. Donc Snowden, régulièrement, il présente un petit peu, et il revient sur le devant de la scène en disant tels outils sont pas mal. Il y a des articles secondaires qu'on parle, donc allez jeter un œil, c'est vraiment pas mal. Hein.
Voilà, pour finir sur notre ex-espion.
C'est pas facile.
Non. C'est vraiment dur. Vivement le prochain article. Il dit quand même que la faiblesse de la NSA, c'est qu'ils n'ont pas les outils pour exploiter les données qu'ils recueillent. Et donc, lui dit, il faut de la législation, plus de législation pour arrêter la machine. Et il dit que voilà, essayer de se protéger par des logiciels, pour lui, c'est pas la peine. Internet Actu, brève histoire de l'empowerment à la reconquête du sens politique, un article de Valérie Peugeot. Valérie Peugeot, c'est une sociologue.
Un sociologue, hein, donc c'est tout à fait ton domaine. Hein.
Bah à peu près, un petit peu. Enfin, ça remonte à loin quand même, mes études. Donc voilà, non, l'article est assez long, mais très très intéressant. Ça parle d'une notion voilà, qui vient des États-Unis.
On peut peut-être même commencer par ça, parce qu'elle essaye de traduire l'empowerment, et ça semble un peu compliqué.
Donc elle dit que l'empowerment renvoie globalement à un mouvement d'acquisition de pouvoir qui débouche sur un résultat tangible. Donc voilà, c'est... Alors les mots qui correspondent en français seraient pouvoir d'agir ou capacitation.
Alors bon, elle recommande aussi de ne pas le traduire. Hein. Finalement, on peut se permettre de prendre et de piquer les mots quand ils sont appropriés. Parce que là, vraiment, il y a tout un sens. Alors ce qui nous intéresse, c'est que ça parle de logiciel libre. Parce que le logiciel libre, à notre époque, à l'époque moderne, c'est un des moyens d'acquérir du pouvoir d'agir sur nos vies, se capaciter, je sais pas comment on peut le traduire ce verbe.
Ce qui est intéressant effectivement, c'est qu'elle dit que cette notion était apparue dans le milieu des travailleurs sociaux aux États-Unis et qui était l'idée que les communautés se mettent à travailler, à se donner du pouvoir sur leur propre vie, mais que c'est un mouvement qui est à la fois personnel, communautaire, local et également politique, et qu'il y avait ces trois échelles-là et que la notion était récupérée par les libéraux en ne mettant que le côté personnel, individuel, c'est travailler à sa propre réussite.
C'est parti des mouvements noirs, féministes, donc des gens qui étaient en groupe et qui se battaient pour leurs droits, et donc effectivement, ça a été récupéré. Alors, nous, ça nous dérange pas forcément, parce qu'on est du bon côté.
Alors, ce qu'elle dit, justement, c'est que l'empowerment, dans le sens originel du terme, se retrouve, justement, dans le logiciel libre, notamment, et dans d'autres mouvements, comme les hackers, le DIY, etc. Et, effectivement, on retrouve ce niveau de, on progresse pour soi-même, on a des communautés, on travaille ensemble, et on a un propos politique. Et, effectivement, c'est très bien vu de sa part.
Donc, vraiment pas mal, conséquent comme article, elle remue les concepts.
C'est assez intello, mais tout à fait lisible, hein. Il n'y a pas de mots trop compliqués.
Voilà, allez jeter un œil, beaucoup de références, hein, elle cite à tour de bras. Moi, ça me fait toujours un peu bizarre, mais en tout cas, vraiment, elle regroupe plein de notions et on sait que, bien, on est dedans, en plein dedans. Le logiciel libre vraiment mène un combat qui n'est pas que technologique ou éthique, hein, mais sociologique aussi.
Politis, logiciel libre, le gouvernement recule, un article de Christine Tréguier.
Alors, c'est la suite de la République numérique.
Voilà, loi donc, sur le numérique. On vous en a parlé avec toutes ces propositions qu'on s'est faites sur le site. Et qu'en gros, l'essentiel des propositions...
pour construire avait... en commun la loi, donc voilà. Les citoyens où on
et
participait.
Et où il y avait beaucoup de logiciels libres, il y avait la neutralité du net, etc. L'article cite tout ce qui a été dégagé.
Et quasiment tout voilà. A été dégagé. Hein. En tout cas, parmi les 10 grosses propositions qui avaient émergé,
voilà,
il n'y a pas grand-chose qui a été gardé.
Suggérer quadrature du net avec suggérer d'autoriser les actions de groupe pour des préjudices autres que directement matériels, comme l'atteinte aux droits sur les données personnelles ou la neutralité du net, donc ça a été viré. L'inscription dans la loi d'un dispositif contre la vente forcée, donc l'idée qu'on puisse acheter un ordinateur de façon décorrélée du logiciel, ça aussi ça s'est dégagé alors que ça fait des années et des années que tout le monde dit ah oui, c'est pas normal.
On adorerait, hein, moi je voudrais acheter des voilà. Ordinateurs où j'ai pas besoin de payer Windows, hein, ça me fait mal au cœur à chaque fois.
Pas d'inscription non plus dans la loi de la notion de commun volontaire, c'est-à-dire que on autoriserait de façon beaucoup plus encadrée, de façon beaucoup plus carrée, les auteurs à mettre leurs œuvres sous des licences de type licence libre, des choses comme
ça. Ah mais ça, les ayants droit, ils n'ont vraiment pas apprécié cet article-là. Ils sont battus.
Après, ils vont dire qu'ils défendent le droit d'auteur, mais...
Ah oui, leur droit d'auteur à eux.
Voilà, si un auteur veut faire du libre, non, il ne faut pas que ce soit trop carré.
Non, parce que sinon, ça donne du flou et ça crée de l'incertitude. Ils n'aiment pas ça du tout.
Et bien sûr, donc, tout ce qui est priorité au logiciel libre, etc., qui là est plutôt du domaine de l'April.
Alors, elle accepte le fait que le gouvernement va dans ce sens-là. Elle dit que le logiciel libre, oui, ça fait partie des choses que le gouvernement met en avant. Mais elle recule au moment ça doit rentrer dans la loi.
Politis, c'est quelque chose d'assez politiquement engagé. Et c'est assez intéressant parce que pour le coup, on a quelque chose d'un peu fort en fin de texte hein, où ils disent, en gros, et c'est ce que dit l'April, on est en
cite,
gros,
hein.
le gouvernement dit oui, on adore ça, mais au moment de le faire, ils font pas. Et elle cite ce qu'on va s'en appeler par ailleurs, c'est que Microsoft arrive avec des millions. Et,
Cisco aussi. Hein,
voilà. En disant, coucou, on va vous filer X dizaines de millions et investir chez vous. Et voilà, et puis bizarrement, tout un agenda qui marche très bien ensemble, et on se doute que tout ça, c'est en tout cas la conclusion de l'article, n'arrive pas complètement par hasard.
C'est rageant, alors que l'Europe vient juste de passer des priorités au logiciel libre, ça fait mal au cœur.
Le Monde.fr, le patron de Microsoft, sort son chéquier en France, un article de Sandrine Cassini.
Eh ben
donc,
voilà.
Bah voilà, c'est ça. Donc,
alors,
ce
n'est pas
patron...
qu'il sorte des milliards, hein. Il sort 83 millions d'euros pour investir.
Ce qui n'est pas rien, c'est quand même pas complètement...
Mais tu te dis que c'est rageant de rater par ailleurs plein d'autres opportunités d'être les leaders sur le logiciel libre, de faire en sorte que les marchés publics, bien, ça soit plus facile, ce soit plus aisé et que ça coûte moins cher, que ça soit rapatrié en termes de compétences, en termes de gestion de manière locale. C'est-à-dire, l'Europe n'y s'y trompe pas, les Anglais non plus,
là,
les Italiens
non plus. Ils sont justement en train d'investir. Le nouveau patron de Microsoft, il faut en parler, il s'appelle Satya Nadella, on se souvient des noms des anciens patrons, ceux qui avaient les stratégies un peu bourrines et dont il était finalement assez facile de se moquer. Et là, l'idée, c'est que c'est de l'investissement, donc en gros, ils arrivent avec leurs dizaines de millions pour alimenter ce qu'on appelle les French Tech quand on est dans le move, quoi, je veux dire, quand on s'y connaît un petit peu.
Et puis, ouais, quand on a l'accent. Là.
Et bien sûr, si Microsoft donne de l'argent, on suppose que cette French Tech va développer avec des technos Microsoft, puis ils vont vous dire, ah oui, mais maintenant, nos langages sont open source, donc tout va très bien, donc aucun souci.
Pas si mal, hein. Par ailleurs, ils ont fait des accords avec Red Hat très récemment, ils font du cloud avec du libre dedans, donc d'un côté, ils vont dans le bon sens, ça n'empêche qu'à la base, c'est quand même des enflures, mais bon, ça...
Et c'est toute la problématique open source libre, hein, c'est qu'ils sont là pour du business, et pour des business qui vont pas nécessairement, et probablement pas, respecter les libertés des utilisateurs et de leurs données, ce genre de choses. Reporter, Internet, le royaume où les biens communs prospèrent, un article d'Émilie Masmin.
Alors, de bien jolies images,
ça commence par un petit dessin, etc., un peu humoristique, et après ça, il y a la photo d'un couple.
D'un couple, magnifique couple.
Moi, je trouve qu'ils ont l'air un peu pervers, quand même.
Non, superbe, un bel ordinateur avec la spirale Debian, oui, c'est Mag et moi,
voilà,
ça fait plaisir. on avait effectivement discuté avec la reporter, donc ça s'était très bien passé, et je vois qu'elle nous met en tête de l'article pour parler du libre, présenter ce qu'on fait les jeudis soirs, hein. On se réunit à la Fondation pour le droit de l'homme, et donc on essaye justement, on travaille sur nos différents projets, moi, l'agenda du libre, Mag sur plein de trucs associatifs, parce qu'elle est dans plein d'associations différentes. Donc ça bosse, et puis elle présente un petit peu les autres personnes qui étaient là, Emmanuel Seyman, qui est un des initiateurs de ce mouvement-là, et elle représente ce que c'est que le logiciel libre, en citant notamment Sébastien Broca,
qui est un sociologue qui a écrit un livre tiré
encore
de sa thèse.
Un sociologue, hein, faut voir la semaine. Hein.
Et il connaît très bien le sujet. Alors si d'aventure vraiment le libre est quelque chose qui vous intéresse, et que vous voulez prendre du temps et lire quelque chose d'assez complet sur le sujet, le livre de Sébastien Broca est très bien, il est très facile à lire.
Mais commencez par l'article.
Très complet. Oui, l'article.
Il est pas mal l'article quand même, voyons.
Tout à fait. fait. Et donc, c'est ce type d'article qui fait une présentation générale du logiciel libre et des mouvements autour. On a du Gale Musquet, de l'OpenStreetMap, des choses comme ça. Donc, si vous connaissez déjà le milieu, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Si vous voulez voir la tête de Manu et de Magali, il ne faut pas hésiter. Donc, voilà. Mais l'article est bien, donc elle est vraiment à recommander à des gens qui ne connaissent pas trop.
On pense qu'elle va en faire d'autres. Je crois qu'elle a fait d'autres choses, hein, parce qu'elle est rentrée un petit peu dans le milieu. Je pense qu'on va parler aussi des hackerspace, des choses comme ça. Il y a plein de choses à dire.
ID Books, repenser la BD avec le numérique et l'open source, un article d'Elisabeth Seton.
Alors, c'est pas habituel de parler de ce genre de choses, parce que là, on parle de contenu, et du contenu fort, hein, des images des BD, qui utilisent le logiciel libre pour être produites, mais qui sont aussi diffusées de manière libre.
Donc, c'est un auteur de BD qui s'appelle David Revoix, et qui est un peu un fer de lance. Il est mis pas mal en avant par les logiciels, enfin, et les projets libres. Notamment, il a travaillé sur des films de la Fondation Blender.
Ah, j'avais raté ça.
Voilà. C'est pas dans l'article, je me suis renseigné en fait, entre temps. Et également, bah, en fait, il y a un logiciel de dessin et de colorisation qui s'appelle Krita, qui le vend pas mal en poupe, qui est très dynamique actuellement. Et pareil, c'est quelqu'un qui met en avant parce qu'il utilise ces logiciels et ça permet de montrer tout ce qu'on peut faire. Et ce mec dessine super bien.
Ah ben, bah, c'est des dessins alors enfantins, parce que ça a l'air d'être son thème, mais qui sont vraiment jolis, quoi. Qui sont expressifs, c'est assez sympa.
Voilà. Et non, c'est un très très bon dessinateur. Il met ses œuvres sous licence libre.
Et ça, c'est impressionnant parce qu'il ne met pas juste sous licence libre avec des petites clauses à deux balles. Non, c'est des licences libres qui autorisent la commercialisation. Il fournit le code source de ces images. J'ai cru comprendre qu'il fournissait des trucs de très bonne résolution et il va vraiment dans le sens de si vous voulez faire du business autour de ces œuvres, eh bien, il vous encourage à cela.
Voilà. Et si vous voulez faire un don pour qu'il puisse payer son loyer, etc.,
je pense qu'il sera content aussi à le faire.
Voilà. En tout cas, voilà, ça vaut le détour. Next Impact, Adopi, le cinéma va injecter l'amende automatique via la loi création, un article de Marc Ress.
Alors, Adopi, qu'on adore.
On sent qu'ils sont en train de bouger là-dessus. Il y a notamment un rapport de certains sénateurs qui disent que la riposte graduée, ça ne marche pas. Donc plutôt que d'essayer de trouver quelque chose de plus intelligent, ils ont décidé que c'est d'essayer de taper plus fort. Et donc mettre des amendes automatiques, un petit peu comme quand on prend des amendes quand on est en excès de vitesse avec sa voiture.
Et l'image est intéressante, hein, parce qu'ils ont eu des problèmes vis-à-vis de ces sujets-là. La riposte graduée, bien plein de gens, et finalement c'est ce qui s'est passé, ont requis que le juge intervienne à un moment donné. Donc l'automatisme de la riposte graduée, bien, ça avait créé beaucoup de problèmes. Et puis là, on en est arrivé au point où Adobe, tout le monde appelait à sa mort. Ça fait longtemps. Hein. Même François Hollande, il avait plus ou moins laissé entendre que ça allait mourir. Oui.
Alors, mais elle l'a tué pour mettre quelque chose de pas mieux à la place.
Alors là, pour le coup, ils veulent la garder, la modifier.
Voilà, en faire une sorte de gendarme. On voit bien donc que tous les prétextes en disant « Oh non, mais Adobe, il ne fera pas que taper, ça va faire plein de d'autres services et de la réflexion sur ça. » Non, c'est bidon, c'est juste là pour taper. Là où ça pose des problèmes, c'est que lors des discussions de la loi Adobe, une des raisons pour lesquelles il y avait passage par le juge et ce genre de choses, c'est qu'on avait toute une série de cas, notamment le fait que l'adresse IP n'est pas une donnée suffisante pour identifier quelqu'un. Il y a des gens qui ont dit telle imprimante a téléchargé des films. Hein,
et ça, c'était arrivé. Vraiment.
Voilà. Donc, il n'y a complète. Pas de raison que ça continue de la sorte. Également, il y avait cette idée que quelqu'un, n'importe qui, peut se faire pirater son accès Wi-Fi. La loi prévoyait qu'il y avait un logiciel de sécurisation qui était une horreur.
Ils n'ont jamais pu le fournir et c'est infournissable en quelque sorte. Ils voulaient faire même en logiciel libre, quelle blague.
Ils avaient trouvé quelqu'un d'un rigolo qui avait dit que c'était possible. Dernier point, c'est que. Ben en gros, avec la loi Adopi telle qu'elle est, si on se retrouve devant le juge et qu'on nie tout et qu'on dit non, je n'ai pas téléchargé, et puis j'avais mis un mot de passe à mon Wi-Fi, ben finalement on peut rien prouver, donc on ne peut pas être condamné.
Il semblerait même, la Adopi, hein, on avait reçu un courrier, il t'accuse pas d'avoir piraté, il dit juste attention, veuillez vérifier que votre connexion n'a pas été utilisée sans votre accord, on a détecté qu'il y avait eu un usage illicite. Donc il se doute bien que ce sont les gens concernés.
Mais pas nécessairement pour le coup.
Mais oui, et donc ils vont dans ce sens-là, quoi. Voilà. C'était intéressant. Mais ça leur enlevait aussi beaucoup de pouvoir et toute leur pouvoir de nuisance.
Ça veut dire qu'on va avoir des gens qui vont prendre des amendes automatiques, donc probablement une majorité de ces amendes va être justifiée. Mais ça veut dire que comme on a déjà eu des cas où l'adresse IP était bidon, etc.
Il y aura aussi des cas où ce sera des amendes qui sont mises de manière...
Et la problématique aussi, c'est qu'on sait que les petits malins, à partir du moment où le risque de prendre une amende va être important, et c'est là où on dit que tout ce système répressif est stupide, c'est que là, pour le coup, ils vont peut-être commencer à pirater le Wi-Fi de leurs voisins, ce genre de choses, en disant « mieux vaut que ça tombe sur les voisins ». Et donc, on sait que plus on tape fort sur une pratique qui est généralisée, qui est une pratique sociale, plus on va générer des comportements de contournement et potentiellement des trucs pas très cool, du genre je fais accuser mon voisin à ma place.
Bon, en attendant,
il fallait contester ça derrière, parce que derrière, c'est improuvable qu'on n'a pas téléchargé. Bon, on a fait le tour.
Je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fiévet et Nicolas Vineau.